Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ça, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, on triga. Me serrer la main, me serrer la main, me serrer la main.
Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors, bienvenue à vous dans Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram.
Sandra a toujours voulu devenir mère, à tel point que lorsqu'avec son mari, ils ne sont pas sur le même timing de la parentalité, cela crée des tensions dans leur couple. Pourtant, lorsqu'elle découvre le test de grossesse positif, c'est la panique. La peur de ne pas être à la hauteur, le vertige de changer de vie. Les débuts de grossesse sont difficiles, Sandra a de fortes nausées pendant 5 mois, perd des kilos et se déshydrate. Heureusement, la suite de sa grossesse sera plus agréable et elle donne naissance à son premier petit garçon. Panique et angoisse refont surface avec cette hypervigilance et la peur de mal faire. Après ses débuts un peu chaotiques, Sandra prend ses marques et retombe enceinte. Elle se projette beaucoup dans cette nouvelle grossesse et fait rapidement une échographie. Rien d'inquiétant, mais la médecin lui demande de patienter encore un peu pour qu'on voit bien l'embryon. Même discours lors de la deuxième écho, puis la troisième, jusqu'à une cinquième échographie où on lui annonce que sa grossesse est en train de s'arrêter. Sandra ne comprend pas pourquoi cela lui arrive alors qu'elle a déjà eu un enfant. Elle ne comprend pas comment ce bébé qu'elle imagine n'existera finalement pas et retourne au travail dans l'incompréhension de ce qui lui arrive et en même temps avec l'envie que tout l'univers le sache. Elle est finalement prise en charge à l'hôpital public pour une aspiration, et si elle pensait être seule à l'avoir vécue, elle découvre que beaucoup de femmes de son entourage ont aussi fait des fausses couches. Dans cet épisode, Sandra nous parle de l'après-fausse couche, du retour à la sexualité après une aspiration, de se reconnecter à son corps et de sa troisième grossesse avec l'arrivée de son deuxième bébé. Bonne écoute!
Bonjour Sandra!
Bonjour Shane!
Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans Le Tourbillon.
Merci de m'avoir invitée.
Alors, tu es la maman de deux enfants, et ils ont quel âge ?
Oui, de Jules, qui a 3 ans et demi, et d'Andrea, qui a 16 mois.
Alors, avant de devenir mère, comment tu envisageais la maternité ? Quel regard tu portais sur tout ça ? Est-ce que tu as toujours voulu être mère ?
Depuis toute petite, c'était une évidence pour moi que je deviendrais mère, J'étais très poupée quand j'étais enfant. Dès qu'il y avait un bébé quelque part, je m'approchais de lui. Quand j'ai eu des petites cousines, je m'en suis beaucoup occupée, changer la couche et tout. Vraiment, ça me passionnait. Et en fait, ça s'est pas tari avec l'âge. Même à l'adolescence, c'était encore quelque chose qui m'attirait énormément. Et puis quand j'ai rencontré la personne avec laquelle je suis aujourd'hui, c'était clair pour moi que je voulais faire des enfants avec lui.
Ouais. Alors comment est venu le sujet entre vous deux
Alors pour moi c'était évident, pour lui ça l'était un peu moins, du moins dans le timing. On s'est mis en couple très jeune, on s'est rencontrés à 19 ans.
Okay.
Et en fait une fois qu'on s'est vraiment lancé dans nos vies professionnelles, qu'on était tous les deux en CDI. Moi, c'est vrai que c'était vraiment une envie que j'avais de me marier et puis de faire des enfants. Et lui était était sûr qu'il aurait des enfants. En revanche, c'était toujours, on attend encore un peu, on profite, on fait des voyages, on verra plus tard. Il y avait vraiment un décalage qui est assez... ça m'agaçait à l'époque parce que je trouvais que c'était hyper cliché, quoi. Trop envie de m'engager et puis lui qui freine un peu. On vivait ensemble, on était très amoureux et très soudés, quoi. Mais on n'était pas sur la même chronologie. Et en fait, on a fini par se marier après 10 ans de couple.
Ouais.
Et pour moi, c'était sûr, une fois qu'on s'était mariés, c'est bon, quoi, on y va. Et encore une fois, non, on attend un peu, etc. Et en fait, ça a fini par déclencher beaucoup de disputes dans notre couple. C'était quelque chose qui revenait sans cesse. À chaque fois qu'on avait le moindre accrochage, je revenais toujours de toute façon. Tu veux pas d'enfant, tu mets trop de temps et tout ça.
Parce que toi, là, t'allais avoir la trentaine.
Ouais, moi, j'allais avoir la trentaine. J'avais pas vraiment de... Je m'étais pas fixé un âge, il faut que j'ai des enfants avant tel âge ou quoi. Mais c'est vrai que pour moi, là, ça faisait longtemps que vraiment, je voulais... C'était concret, c'était pas juste j'aimais bien mes bébés et je trouvais ça trop mignon de jouer à la poupée, quoi. Je sais que vers, je sais pas, vers 24 ans, je crois... J'ai rêvé une nuit que j'étais enceinte. Je me souviens encore très clairement de ce rêve. Et je me suis dit, ça y est. Et j'étais déjà, du coup, j'avais 24 ans, donc j'étais déjà avec Harold. Et je me suis dit, c'est maintenant, quoi. Il faut le faire. Et donc, il a fallu attendre encore bien. Notre premier enfant, il est né, j'avais 31 ans.
Tes amies, elles avaient des enfants autour de toi?
Non. Même pas. Je peux même pas dire que c'était un effet un peu de contagion comme ça. De voir les autres y aller. Non, pas du tout. On a été les premiers, parmi les premiers dans notre couple, dans notre groupe d'amis. Mais en fait, à un moment, j'ai fini par... j'étais en thérapie à cette époque-là et ma psy m'a dit, en fait, bah, c'est peut-être pas à vous de subir tout ça, de prendre une contraception, d'avoir à attendre que ce soit lui qui soit prêt. C'est à lui, en fait... S'il souhaite, bah, par exemple, de prendre en charge la contraception, de faire le chemin. Et en fait, je l'ai mis face au fait accompli. Je lui ai dit, voilà, moi, je veux un enfant, donc j'arrête la contraception. Je ne veux pas faire un enfant dans ton dos, pas du tout. Mais par contre, si toi, tu n'en veux pas maintenant, c'est ta charge maintenant, c'est ta charge mentale. Et puis surtout, j'ai réussi à ne plus parler de ce projet-là d'enfant, à ne plus le sortir à la moindre dispute pendant 3 mois. Il a pu souffler aussi. Il y avait une énorme pression, en fait. Je mettais une énorme pression sur ses épaules. Et en fait, au bout de 3 mois, c'est lui qui m'a dit « on y va ».
Comment t'as vécu cette petite annonce?
En fait, moi, j'ai du mal à profiter de l'instant présent. Donc, je pense que très rapidement, je me suis dit « Oh là là, et si ça marchait pas ? Et comment on va faire ? Alors, un enfant, mon Dieu, ça fait quand même un peu peur. » Enfin. Voilà, ça c'est moi, ma façon de fonctionner, ne pas se profiter du moment et de se dire super, on va faire un enfant.
Bah alors vous prenez la décision et combien de temps ça prend pour toi pour tomber enceinte?
On a pris la décision au mois d'août et ça a pris 3 mois. Enfin, je suis tombée enceinte début décembre. Donc, vraiment. Parfait, quoi.
Ouais.
Surtout après avoir été très longtemps sous contraceptif hormonal, mon corps a eu aucun problème pour évacuer tout ça. Avant ça, pendant ces 3 mois, j'ai quand même fait énormément de tests de grossesse.
Ouais.
Je sais pas pourquoi, depuis l'adolescence, j'ai une crainte d'être stérile.
D'accord.
Je sais pas d'où ça vient. Il y a rien qui a pu me faire dire que je pouvais être stérile. Mais voilà, donc j'étais très inquiète et très angoissée. J'étais dans un moment dans la vie professionnelle où j'avais beaucoup de boulot, beaucoup de pression. Et donc, c'était... Voilà, ce moment d'attente qui a duré très peu de temps, il n'a quand même pas été très agréable. Donc, j'ai beaucoup d'empathie pour les couples et les femmes qui doivent attendre bien plus que 3 mois. Après, je me souviens très, très bien du moment où on a fait le test, parce qu'on l'a fait ensemble. Et en fait, à force de me voir faire des tests de grossesse négatifs, Harold me disait on arrête, en fait, parce que c'est dur, ça te rend triste à chaque fois, ça fait pas longtemps qu'on essaye, on se calme. Et en fait, je pense que je suis tombée enceinte début décembre, mais on s'en est rendu compte au moment de Noël. Et je devais avoir mes règles, mais je les avais pas, mais j'avais très mal au ventre. Enfin, je sentais qu'il y avait un truc bizarre, mais j'avais tellement peur de me tromper encore une fois que j'ai vraiment mis longtemps à faire le test. Et quand finalement, je me décide à aller l'acheter, donc je me souviens de la pharmacie à côté de chez mes parents, parce qu'on était en famille pour Noël. Et la pharmacienne me dit, bon, alors je sais pas si vous le savez, il vaut mieux le faire le matin, vous aurez un résultat plus fiable et tout. On était le soir, donc j'étais dégoûtée. Harold me dit, non, mais si, on le fait le matin. Il nous a dit, le matin, on le fait le matin. On suit les règles. J'ai trop mal dormi à 5 heures du matin, un truc qui m'arrive jamais. Moi, j'ai pas d'insomnie et tout. Vraiment, les yeux ouverts à regarder le plafond, à me dire, oh, je vais faire le test, je vais faire le test, je vais faire le test. Je pense que je savais qu'il allait être positif, en fait. Et je me lève, Harold ouvre un œil en me disant, mais qu'est-ce que tu fais? Quelle heure il est? Il fait nuit. Je lui dis, je vais faire le test, je vais faire le test. Il est 5 heures du matin, on est le matin. Et 5 heures du matin, c'est le matin. Et il me dit, OK, bon, bah écoute, tu reviens quand il est négatif. Et on était dans un petit studio qui est à côté de chez mes parents parce qu'il y avait trop de monde chez mes parents, on ne pouvait pas dormir chez eux. Et donc, la salle de bain communiquait avec la chambre. Et donc, je fais pipi sur ce fameux test. Et en fait, très rapidement, il y a un résultat qui apparaît, qui est une deuxième barre, mais très, très rose. Enfin, non, pas très, très rose, vraiment très...
Très, très pâle. Rose.
Ouais, très, très pâle. Et je reviens dans le lit et je lui dis, mais je crois que c'est positif. Du coup, il regarde le test. Et là, on se rallonge tous les deux à regarder le plafond et à paniquer, je pense, l'un et l'autre. Il n'y a pas eu de « Oh, on pleure, on est tellement heureux !» Non, il y a eu « Oh, putain comment on va faire ?» Et je me souviens que la journée, du coup, elle se passe un peu en pilote automatique. On avait plein de trucs, il y avait plein de familles, plein de gens. Puis c'est des moments qui sont très intenses où, en fait, pendant Noël, tu parles avec plein de gens, mais tu finis pas les conversations. Il y a des nouvelles personnes qui arrivent pour prendre le café. Enfin, on était dans une espèce déjà de tourbillon. Et puis, j'arrive quand même à choper ma mère entre deux trucs. Elle fait la cuisine. Tout se passe chez eux. Donc, il y a quand même une pression pour elle, bien préparer les trucs et tout. Et je lui montre une photo du test de grossesse. Elle me dit, c'est quoi? Parce qu'elle savait qu'on voulait. Et je lui dis, bah, c'est moi. Elle me dit, ah bon? Et je lui dis, non, mais écoute, c'est négatif, c'est trop bizarre, cette deuxième barre rose, à peine rose, c'est négatif. Et en fait, je lui laisse même pas le temps, je pars de la pièce. Moi, je suis quelqu'un d'hyper pudique et j'aime pas les effusions, j'aime pas qu'on me prenne dans les bras et tout. Et je pense que je la laisse là, comme ça, avec son tablier sale et à être un peu certainement hébétée de, ok, ma fille vient de m'annoncer qu'elle était enceinte. Mais elle me dit non. Et puis le soir même, on partait, en fait, avec Harold, on rentrait à Paris. Et en fait, sur le chemin, on s'arrête sur l'autoroute. Je rachète deux autres tests de grossesse. J'en refais un tout de suite. J'en refais un le lendemain qui sont positifs. Et j'en refais encore trois autres. J'ai fait toutes les marques parce que je me disais, est-ce que c'est sûr? Est-ce que c'est vrai? Je suis vraiment enceinte. Mais non, c'est une blague. Je ne peux pas être enceinte. Enfin, et cet état de stupéfaction, il a duré quelques jours. Vraiment... Harold, il était beaucoup plus serein, il avait eu le temps un peu de digérer la nouvelle, il était super content. Moi, j'étais un peu « Oh là là !»
Et c'était « Oh là là !» Quelque chose te faisait peur en particulier ou c'était…
C'était un truc que j'avais toujours voulu et du coup, ça allait se produire là maintenant. Et je pense qu'il y avait tellement d'attentes de ma part que ça me faisait peur… De pas être à la hauteur du truc, en fait, c'est bizarre, je trouve, la grossesse et le fait d'accoucher, c'est que on sait qu'on va changer de vie, c'est là, ça arrive, c'est comme en face, je trouve qu'on est comme face à un tsunami et il y a peu de changements de vie professionnels, d'autres changements de vie où on sait que ça va arriver dans 9 mois, telle date, telle heure, tel truc, et que ta vie ne sera plus jamais la même, qu'il n'y aura pas de retour en arrière, enfin, sauf que c'est assez bizarre, en fait. C'est un tsunami prévisible et qu'on regarde arriver comme ça, en disant, bon, ça y est, je suis la prochaine.
Quand tu l'as annoncé à ta maman, là, tu pensais pas du tout aux fameux 3 mois où il faut garder secret un petit peu la grossesse?
Non. Je sais pas très bien. Je suis pas sûre qu'à l'époque, j'avais déjà une réflexion là-dessus. Je pense que... c'était évident pour moi qu'il fallait que je le partage à quelqu'un d'autre qu'à Harold. Je suis assez proche de ma mère. Et puis surtout, je pense qu'au moment où je lui dis, je n'ai pas l'impression de lui annoncer que je vais avoir un enfant. C'est que je lui dis, maman, je ne comprends pas, j'ai fait un test de grossesse, il a l'air positif, qu'est-ce que je dois faire, quoi? Et après, on en parle très rapidement à quelques amis proches. Mais la plupart des gens... qui sont dans notre cercle de famille, d'amis, sont au courant avant les 3 mois. assez naturellement, sans qu'on me dise « Ah, attention, la fausse couche, il n'y a pas tout ça. »
T'en avais entendu parler des fausses couches à ce moment-là ou pas du tout ?
C'était, ça existait, mais ce n'était pas dans mon logiciel. J'avais l'impression que c'était quelque chose qui était lié à une maladie, à un état de santé particulier ou à quelque chose qu'on peut faire quand on suit peut-être pas les règles ou quelque chose comme ça. Mais c'était pas, je savais pas que c'était aussi fréquent et je savais pas que moi je pouvais très bien vivre une fausse couche comme ma voisine, ma mère, ma collègue quoi.
Oui, alors comment se passe cette première grossesse ?
Alors très difficile. Je peux pas dire que je n'aime pas être enceinte parce que je trouve que c'est quand même assez magique, mais je fais partie de ces femmes qui vivent de l'hyperémèse gravidique. Donc c'est vomissements et nausées constants qui sont extrêmement handicapants, très récurrents dans la journée. C'est pas ce qu'on appelle à tort d'ailleurs les nausées matinales, mais c'est vraiment toute la journée. Et pour la première grossesse, ça a duré pendant 5 mois et demi,
aïe,
à vomir plusieurs fois par jour, à avoir des nausées tout le temps, y compris la nuit, à être réveillée par les nausées, du coup à perdre pas mal de poids et à pas pouvoir... J'avais une liste très très restreinte d'aliments que j'arrivais à manger et à garder. Je pouvais pas boire d'eau, je pouvais pas boire d'eau plate, je pouvais boire un tout petit peu certains jours. Pas tous les jours. Donc, il y a des jours où je n'avais pas de... Je ne pouvais pas boire du tout. Mais certains jours, j'arrivais à boire un peu de Perrier, okay, en canette et qui venait du frigo ou un petit peu de Coca-Zéro.
Ah, il fallait des bulles.
Ouais, voilà. Il fallait que ce soit très, très gazéifié et il fallait que ce soit très, très frais. Et ce n'était pas possible d'en boire plus de 2-3 gorgées. Et donc, j'avais une soif en permanence. Mais vraiment, encore aujourd'hui, alors c'était quand même il y a longtemps... Quand je bois un verre d'eau, parfois, je me dis « Waouh, c'est bon, ça me fait du bien !» J'ai encore la sensation d'ouvrir mon frigo, de voir une bouteille d'eau et de me dire « Qu'est-ce que j'aimerais la boire ? Qu'est-ce que j'ai soif ?» et de savoir que ce n'est pas possible. Mmh. Et l'alimentation, c'est pareil. Tout ce que... Moi, je mange... J'adore les légumes, les fruits et tout. Bah, la plupart des légumes et des fruits, je pouvais pas les manger. Donc, ça a été très, très dur. Et puis... C'est hyper culpabilisant comme état parce qu'on sait qu'on est en train de créer la vie, d'avoir quelque chose qui grandit en nous, qui a besoin du meilleur. Et ce que je pouvais lui donner, c'était du Coca-Zéro, des pâtes et parfois, du bonjour, un peu de steak haché trop brûlé pour être vraiment bon. Et de me voir maigrir aussi, c'était hyper inquiétant en fait. Voilà, donc c'était une grossesse qui a été très fatigante et vraiment il y a des moments où je me suis dit mais je veux plus jamais être enceinte, je veux plus jamais que ça m'arrive et puis je veux même limite que ça s'arrête en fait maintenant parce que il y a vraiment une conséquence sur le moral à avoir de la nausée tout le temps et à vomir plusieurs fois par jour, ça impacte le moral et il y a des études qui ont montré que qu'il y avait aussi des couples qui se séparaient à cause de ça.
Ah oui.
Ouais, et c'est vrai que j'ai été insupportable en fait pour mon mec. C'était très difficile de vivre avec une personne. Parfois, il rentrait le soir, il essayait de me faire à manger, mais en fait, je refusais tous les repas. Il me proposait de faire une petite promenade, ben en fait, je pouvais pas sortir et trop marcher parce que j'avais la tête qui tournait parce que j'étais très faible en fait. Et c'était dur pour lui, puis ça a duré longtemps. Hein. 5 mois, c'est pas une semaine quoi. Et je tenais absolument à travailler, à assurer mon quotidien en boulot, j'avais 2 heures de transport par jour, j'ai vomi dans le métro, j'ai vomi dans le RER, à mon open space aussi, dans la cantine de mon entreprise, enfin, vraiment, mais 5 mois de survie très pénible.
Et alors, au bout de 5 mois, du coup, tu reprends du poil de la bête ? Ça s'arrête d'un coup ?
Non, ça s'arrête pas d'un coup, j'ai été hospitalisée. Au bout de 4 mois, je crois, j'ai été hospitalisée, j'ai été réhydratée pendant 24 heures avec des perfusions et tout ça parce que vraiment je buvais pas assez et je mangeais pas assez. Une fois que j'ai eu ça, ça s'est quand même grandement amélioré. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a un médicament qui existait mais qu'on m'avait fortement déconseillé. Une pharmacienne qui m'avait dit « mais vous allez tuer votre bébé » alors qu'un médecin me l'avait prescrit. Donc j'ai pas pu le prendre et en fait je l'ai découvert pour la dernière grossesse, la grossesse d'Andrea. Et clairement, c'est pas incroyable, mais ça a quand même amélioré mon quotidien, quoi. J'étais capable de fonctionner, en tout cas. Une fois que j'ai pu remonter un peu avec la perfusion, le glucose et tout ça qu'ils m'ont donné à l'hôpital, ça allait mieux. Et puis, je pense qu'à un moment, peut-être le corps s'adapte aussi aux hormones de grossesse. Et je sais que pour certaines femmes, ça peut durer jusqu'au moment de l'accouchement, cette hyper-MS. Mais moi, voilà, au fur et à mesure des semaines, ça allait de mieux en mieux. Il n'y a pas eu un truc où du jour au lendemain, c'était mieux. Et après, une fois que ça s'est passé, bah, c'était chouette. Je me sentais hyper bien, enceinte. J'avais pas de problème. J'avais assez peu grossi. Du coup, j'avais pas de problème trop de dos. J'avais pas un ventre qui était énorme. Donc, je me sentais encore très mobile. J'ai pu un peu reprendre le sport parce que avec l'hyper-MS, j'avais dû arrêter le sport. J'avais dû arrêter mon activité associative aussi. Enfin, là, c'était un peu le retour à la vie. Et puis, en fait, je ne sortais plus. J'avais plus de vie sociale. Puisque toute mon énergie a été concentrée autour de mon travail. Là, je redécouvrais aussi un peu les sorties avec des copains, les sorties le soir. Donc voilà, cette deuxième partie de la grossesse, elle a été beaucoup plus agréable. Et puis en fait, j'ai été arrêtée assez rapidement parce que j'avais accumulé quand même beaucoup de fatigue et j'avais beaucoup de transport. Donc j'ai été arrêtée, je vais pas dire de bêtises, mais un truc du genre à 7 mois.
D'accord.
À 7 mois de grossesse. Et donc à la fin jusqu'à l'accouchement, j'ai accouché pratiquement à terme. Bah je faisais du sport, j'allais à la piscine, je faisais des siestes, je lisais. Enfin c'était vraiment beaucoup plus cool et c'était une très jolie fin de grossesse.
Et t'avais fait un projet de naissance?
Non, j'avais lu beaucoup de livres, puis j'avais fait des préparations à l'accouchement, donc je connaissais. On en avait parlé une ou deux fois avec Harold, et puis en fait, on était assez clairs l'un et l'autre sur ce qu'on voulait et sur le fait qu'on voulait faire confiance aussi à l'équipe médicale. On sentait qu'on était dans une maternité qui était assez ouverte, assez à l'écoute. Donc, on n'a pas ressenti le besoin de faire le projet de naissance.
Mais toi, tu voulais un accouchement avec péridurale
On avait fait avec Harold de l'autonomie avant, vers le milieu de la grossesse. Donc, elle nous avait parlé pas mal d'accouchements physiologiques, de l'effet de la péridurale possible sur la vitesse à laquelle on peut accoucher, etc. Donc, moi, j'étais partie du principe que j'essaierais sans péridurale. Et puis que si je sentais que c'était au-delà de mes capacités, je prendrais la péridurale sans aucun problème. Et en fait, ce que j'avais pas en tête, c'est qu'un accouchement sans péridurale, en fait, ça se prépare vraiment. C'est pas juste on verra sur le moment, je vais faire le maximum. En fait, il faut vraiment avoir un accompagnement là-dessus. Donc en fait, j'ai tenu, puis en fait, j'ai oublié tout ce qu'elle m'a dit en autonomie, Voilà, j'ai complètement zappé sur le moment qu'il fallait que je reste debout, que je reste mobile pour mieux gérer la douleur des contractions. On m'a allongé très rapidement sur un lit, sur le dos, et en fait, c'est pas du tout gérable comme ça, un accouchement physio. Donc voilà, donc j'ai eu la péridurale. Mon accouchement a été assez rapide, mais j'ai eu la péridurale au moment où vraiment j'en avais besoin, et ça s'est très bien passé malgré tout.
Et comment s'est passée la rencontre avec ton petit chou ?
Ça a été un moment très ambivalent. J'étais vraiment contente pendant le travail et ça, je pense que c'était l'autonomie qui m'avait permis de garder ça, de vraiment être en contact avec lui. J'ai passé deux heures de contraction chez moi dans la nuit, toute seule dans mon salon, à lui parler, à être avec lui, à gérer tout ça. Et en fait, au moment où la sage-femme m'a dit « Bon, bah on y va, vous êtes dilatée à 10, on va pousser, etc. » Là, j'ai senti vraiment une panique, un peu comme celle, je pense, au moment où je fais le test de grossesse, et où je me dis « Oh, il y a un bébé qui va sortir, là. »
Ça devient concret.
Et c'est mon bébé, en plus. En fait, les poussées ont été très rapides. Vraiment, il est sorti... très très vite, Jules. Et en fait, au moment où il sort, je me souviens très bien de la pièce. Il y avait du soleil ce jour-là. C'était un moment très doux. Il y avait peu de monde dans la pièce. la sage-femme me dit attrapez-le, attrapez-le, il est là, attrapez-le. Et là, moi, je me dis mais non. Mais madame, je ne veux pas. Attraper quoi en fait? Il y a quoi qui sort de moi? En fait, je ne comprenais plus ce qui se passait. Ouais. Elle insiste, je dis non, elle insiste, je dis non, elle insiste, je dis bon, ok, donc il faut que je le fasse, d'accord? Donc, je l'attrape, je sens quelque chose, un petit être tout visqueux, tout fin. Jules, c'était vraiment une petite crevette quand il est né. Et je le prends, et encore maintenant, tu vois, j'ai les mains qui tremblent en y pensant. Et je me dis, mon Dieu, qui êtes-vous? qui êtes-vous? Que voulez-vous? Donc, je le mets, je sais en fait, je sais ce qu'il faut faire. Je sais qu'il faut que je le prenne, que je le mette sur ma poitrine, qu'on fasse du pot à pot. J'ai tout lu sur le pot à pot, c'était écrit dans le livre. Je regarde Harold, je vois qu'il a les larmes aux yeux. Je me dis, ok. Et puis, je regarde Jules et je me dis, mon Dieu, comment je vais faire, quoi? Et en fait, je n'ai pas ce sentiment de me dire, c'est mon bébé. Je suis maman, c'est toi, moi je suis ta maman, je t'aime de tout mon cœur et tout. Non, j'ai juste la panique du moment de me dire tout à coup, est-ce que juste on pourrait mettre pause? Je vais m'asseoir dans une autre pièce à côté, j'ai besoin de 3 minutes pour souffler et me dire, ok, je reviens, je remets un sourire. Et en fait, ça, c'est pas possible. Mais vraiment, j'avais besoin de ça. J'avais besoin de, s'il vous plaît, laissez-moi 2 secondes. Et en même temps, je le vois, il me regarde, il a ce regard des nouveau-nés qui est hyper perçant, qui, moi, m'impressionne, en fait. Il m'impressionne quand je le vois. Et je me dis, ok, il a bien, il a 2 jambes, 2 bras, c'est un vrai bébé, quoi. Et c'est mon bébé, et il était dans mon ventre. Donc là, je n'ai plus rien dans le ventre. Et la sage-femme s'éclipse, et il nous laisse presque 3 heures, je crois, parce que vraiment, on était à un moment où il y avait très peu d'accouchements dans la maternité, donc il y avait le temps de prendre notre temps.
Ouais.
Harold prend des photos, on parle et tout. C'est un moment très... Je me souviens très bien, c'est très joyeux. Je sens que moi, je suis quand même dans une panique absolue, mais malgré tout, c'est très doux, c'est joyeux. Et puis, bon, là, pour l'instant, j'ai, entre guillemets, j'ai pas eu à m'en occuper. C'est-à-dire, juste, il est sur moi, il se remet de l'accouchement. Je me remets de l'accouchement. Je suis inquiète sur, aussi par rapport à mon corps, de savoir... Est-ce que j'ai eu une déchirure? Est-ce que j'ai eu une épisio? Est-ce qu'il y a eu quelque chose? Et en fait, tout va bien. On repart dans la chambre. Donc, au bout de 3 heures, on me met dans un fauteuil. J'ai Jules dans les bras. Harold, qui je sens, est vraiment mais au nirvana, quoi. Et il est dans un bien-être, un bonheur, mais intense. Et moi, je commence à me dire, je ne suis pas là. Je ne suis pas comme lui, là. Je ne vis pas la même chose. Et je sais que je tremble et je sens monter l'angoisse encore plus, là, en sortant de la chambre, en voyant le monde extérieur, et une peur que je pense je n'ai jamais ressentie avant. C'est vraiment le moment de ma vie où j'ai il y a eu 2 moments, on y reviendra après peut-être, mais l'un des 2 moments où j'ai le plus peur dans ma vie, quoi. D'avoir ce tout petit bébé qui pleure pas, qui, encore une fois, des bébés à ce moment-là, ils sont un peu sonnés de l'accouchement, donc ils sont très calmes. C'est toujours le moment où t'appelles ta famille et tu dis, oh, il pleure pas, il est super calme, qu'est-ce qu'il a fait, ce bébé? Puis après, il y a la nuit de la Java et tout ça qui arrive, mais il y a cette, voilà. Et en fait, cette angoisse et cette peur, elle ne m'a plus quittée pendant, je ne sais pas, quelques semaines, quelques mois. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais ça a duré. Je ne suis pas sûre que ce soit une dépression postpartum ou quelque chose comme ça, parce que j'ai toujours pu m'occuper de Jules. Mais j'étais dans une terreur, une hypervigilance, une impression vraiment de ne pas savoir et de ne pas pouvoir m'occuper bien de lui, de pas... Et tout me semblait difficile au départ, juste, voilà, j'étais dans le lit, dans ma chambre de la maternité, juste de me lever et de le poser ou de le prendre. Ça, j'avais le cœur qui battait, qui s'emballait et tout, alors que j'ai eu la chance que Harold puisse rester. C'était vraiment notre souhait et il a pu rester toutes les nuits et tous les jours de la maternité. S'il n'avait pas été là, je pense que j'aurais pu vraiment sombrer... parce que je me sentais pas à la hauteur, puis je comprenais pas, en fait, j'avais vraiment l'impression que je ne comprenais pas ce qui se passait. Que cet enfant, ce petit bébé qui était magnifique, qui avait l'air très sympathique, mais c'était qui en fait la maman? À partir de quand on va me dire non, mais vous inquiétez pas, il y a une maman qui va arriver, qui sait? Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que voyant qu'au fur et à mesure des jours que ça passait pas, je me suis dit, bon, Harold a l'air de savoir ce qu'il fait, clairement. Je sais pas si c'est de l'instinct. Je pense que c'est plutôt qu'il a confiance et qu'il se dit, bon, je suis le père, donc je vais m'en occuper, quoi. Et moi, je n'avais pas cette confiance. Je me suis dit, je vais faire un peu comme lui. Et puis, je regardais les sages-femmes aussi et les puéricultrices. Et il y avait une puéricultrice qui l'appelait mon chaton à chaque fois qu'elle venait le voir. Donc, je me dis, bon, je vais l'appeler mon chaton, moi aussi. Et aujourd'hui encore, je continue à l'appeler mon chaton. Mais tu vois, j'ai vraiment eu le côté, bon, comme je ne sais pas, je vais voir et puis je vais imiter un peu. Peut-être que les gens ne vont pas se rendre compte que je ne sais vraiment pas ce que je fais. Alors que moi, qui avais toujours été hyper intéressée.
Ah oui.
Et allez, viens que je te prends dans les bras. Oh, j'ai trop hâte d'avoir un bébé. Et ben non, bah avec mon bébé, il a fallu vraiment un temps d'apprentissage pour lui comme pour moi. L'allaitement, ça a été très très dur. La montée de lait a été horrible. J'ai pas souffert pendant l'accouchement, vraiment pas. Mais alors la montée de lait, j'ai souffert comme je pensais pas que je pouvais souffrir. De la poitrine, de tout. Mon corps entier était une inflammation à cause de cette montée de lait gigantesque. Ça a aussi renforcé le fait que j'avais l'impression de ne pas savoir.
Ouais, oui.
Et on n'est pas accompagné en France. Il faut absolument que les mamans allaitent. Mais alors comment ? Ça, vous vous débrouillez, quoi. Et donc moi, on m'avait dit, il faut que tu allaites. Bon, bah, j'allaite. Mais personne ne m'avait dit que ça allait vraiment me faire très, très mal. Qu'est-ce qu'il fallait faire quand j'avais mal? Il y avait écrit un petit peu, oui, bon, bah, ça peut faire un peu mal, mais ça dure pas, c'est le lait qui arrive, le bébé tête. Donc, voilà. Tout ça fait que vraiment, les premiers moments avec Jules, ça a été très ambivalent.
Oui, une entrée dans la maternité un petit peu à tâtons.
Ouais, vraiment. Et de me dire, bah, mince, en fait, je rate, quoi. Parce que tout le monde dit que tu reconnais ton bébé, il sort et puis il y a une évidence. Alors je savais bien, j'avais déjà lu des choses sur l'instinct maternel, que ben en fait c'était pas si simple que ça. Il y avait pas forcément d'instinct à proprement parler, etc. Mais de là à être paumée comme ça, je pensais pas. Et du coup, ça m'a aussi déçue de moi-même de me dire, eh oh, c'est quoi cette mère là que tu fais? Ça y est, t'as loupé l'examen déjà. Et en fait non.
Et alors, quelques temps après, vous décidez de refaire un deuxième bébé?
Ouais, peu de temps après, finalement. Bah, ça nous a bien plu. On était vraiment ultra fans de notre petit Jules. On l'est toujours, d'ailleurs. Mais vraiment, on s'est dit, bon, on est un peu fatigués. On a des couches par-dessus la tête. Mais autant y retourner. Comme ça, au moins, ce sera fait. Ouais. Voilà, on prend cher au début et puis après, ils s'entendent super bien, ils jouent ensemble et on part tous les quatre en camping-car au bout du monde. Et du coup, on décide d'avoir un deuxième enfant. Je sais pas, Jules devait avoir un an et deux mois, un truc comme ça. Il venait juste d'avoir un an.
Et donc là, pareil, tu tombes enceinte au bout de quelques mois?
Je tombe enceinte très rapidement. J'avais un stérilet hormonal que j'ai fait enlever donc pour l'occasion. Et je sais pas, au bout de trois semaines après avoir retiré le stérilet, je tombe enceinte. Et je tombe enceinte à un moment... Donc, on est hyper contents. Sauf que ça a marché quand même un peu plus vite que ce qu'on imaginait. On pensait avoir un peu plus de temps. Et surtout, je tombe enceinte à un moment qui est compliqué dans ma vie professionnelle. Je tombe enceinte à un moment où j'ai été arrêtée assez longtemps, je suis en conflit avec une personne dans mon entreprise, je me sens vraiment... Je me sens fragilisée. Mm. Et du coup, en découvrant cette grossesse, tout à coup, il y a un espèce d'un effet bouclier, quoi. Je me dis, ce bébé-là, il va me porter. Et du coup, je retourne au travail, J'ai vachement de force. Et ce truc qui était un peu... Cette grossesse qui était prévue, mais pas aussi vite et tout, bah finalement, on se dit, allez, c'est trop bien, deuxième enfant, et si on changeait de vie, et si on partait on commençait à en avoir marre tous les deux de Paris, de nos vies qui étaient vraiment... on avait tous les deux des postes à responsabilité et tout. Et en fait... trop rapidement parce que je sais ce qui m'attend. J'ai très peur de l'hyperhymèse gravidique et de tous ces vomissements.
Ouais.
Je me dis vite, vite, il faut que je rentre dans cette grossesse. Là, ça va, je me sens pas trop mal, j'ai pas de nausées. Allez, vite, échographie, prise de sang, on y va, tac, tac. Il faut que je trouve, il faut que je vois s'il n'y a pas d'autres médicaments que je peux prendre. Enfin, vraiment, je me projette sur cette grossesse. Elle est partie, quoi. Il n'y a pas de risque. Et en fait, je fais une première échographie, donc échographie de datation classique, qui est donc une échographie endovaginale qu'on fait au tout début pour être sûr que la grossesse est bien au bon endroit, que ce n'est pas une grossesse extra-utérine, etc. Et là, la médecin me dit, bah, c'est trop tôt, on ne voit pas grand-chose, il faut vraiment revenir plus tard. Là. Enfin, je me fais limite un peu engueuler.
Ah oui, oui, parce que là, tu es à combien de semaines?
Oh, je ne sais pas, vraiment, j'ai vraiment speedé. Hein. Je dois être à 3 semaines, tu
D'accord,
vois.
D'accord, oui.
En plus, moi, je vais chez une médecin généraliste. C'est pas, elle est formée aux échographies de grossesse, mais c'est pas peut-être un professionnel de santé qui fait que ça toute la journée et qui peut-être à 3 semaines aurait pu voir quelque chose. Elle me dit non, mais là vous revenez dans 10 jours, ça sert à rien, on voit pas. Voilà. Mais encore une fois, là je me dis pas qu'il peut y avoir un problème, quoi. Je me dis juste, oh, calme-toi, Sandra, ça va, prends le temps un peu, profite, t'es enceinte. Et donc 10 jours après, je refais une autre échographie où là, elle me dit oui, alors ça se développe, lentement. Bon bah revenez dans une semaine.
Toi, tu l'avais annoncé autour de toi là?
Ouais, on l'avait dit à mes parents, on l'avait dit aux parents d'Harold. Et voilà, parce qu'en fait, c'était très peu de jours déjà. Hein, en tout, je devais le savoir peut-être depuis 15 jours. Donc, on n'avait pas encore eu trop l'occasion de le dire. Troisième échographie, donc 10 jours encore plus tard. Là, on l'avait dit un peu plus de monde. J'étais allée dans ma famille à Marseille. Donc, on l'avait dit à mes grands-parents, à mon grand frère, à mes tantes, à mes cousines, mes cousins. Voilà, bon, après, moi, je suis très proche de ma famille. Donc, c'était pas un énorme truc de leur dire. On l'avait dit à quelques amis. Tout en leur disant, bon, bah, pour l'instant, on ne sait pas très bien comment ça évolue, on verra. Mais vraiment, dans ma tête, il n'y a pas de fausse couche, quoi. Enfin, ça ne vient même pas à l'idée, je pense. Et la troisième écho, elle me dit, oui, il y a un embryon, là. Ah non, attendez. Ah oui, non. Enfin, elle est toujours aussi indécise sur ce qu'on ne voit pas. Elle me dit, ça a évolué. J'entends pas de rythme cardiaque, il faut revenir, je sais pas, enfin bref. En fait, ça a duré comme ça, mais pendant plusieurs semaines, à dire je sais pas, oui, peut-être, c'est peut-être trop tôt, ça se développe, mais c'est très lent. Et donc, au fur et à mesure, il y aura 5 échographies comme ça en tout, je me dis bon, là, ça sent pas bon.
Comment tu vis, toi, cette attente?
L'attente, elle est hyper dure, surtout qu'à chaque fois, c'est pas on prend rendez-vous 2 jours après, c'est on prend rendez-vous 1 semaine, 10 jours après. Donc, c'est long. En plus, on est au mois de janvier. Donc, mois de janvier à Paris, il fait sombre, il pleut beaucoup. Au travail, c'est horrible. L'ambiance est terrible. Je suis vraiment une boule de nerfs. Donc, c'est un cocktail qui fait que vraiment, je suis vraiment pas bien.
Ouais.
Et au fur et à mesure, la petite voix qui me fait me dire, bon, bah, peut-être ça va pas marcher, peut-être une fausse couche, elle s'impose de plus en plus. Et puis finalement, il y a, je crois que c'est la 4e écho, elle me dit, écoutez, à mon avis, bon, ça va pas tenir, revenez encore dans 10 jours. Et là, en fait, je prends la décision de voir un autre spécialiste. Et elle, donc cette spécialiste que je vois le surlendemain, elle me dit la grossesse est finie, direct. Enfin, elle a à peine mis la sonde que c'est sans appel. C'est fini. Et elle me dit même c'est en cours. C'est en cours d'écollement. Donc en gros, mon corps a déjà... Et en fait, c'est dur parce que pendant quand même quelques semaines, j'ai des nausées, j'ai des vomissements, je retrouve mon coca zéro et tout. Et en fait, tout ça me rassure aussi. Mm. Me fait dire, bah, c'est bon. Et puis, il y a un moment où les nausées s'estompent un peu, elles s'espacent. J'ai de plus en plus de moments où j'ai plus de nausées. Et du coup, bah, ça aussi, il me fait me dire, bon, c'est peut-être fini, en fait. Et quand on voit cette spécialiste, Harold est là, il n'est pas venu aux autres rendez-vous. Quand on la voit, qu'elle nous dit ça, qu'elle nous dit vraiment la grossesse est arrêtée, elle le dit de manière assez froide et sans trop d'affect, mais en même temps c'est pas plus mal quoi. Elle tourne pas autour du Elle tourne pas autour du pot. Et puis c'est juste que du coup moi tout de suite je pleure. Harold est un peu mal à l'aise Bon, c'est un moment un peu compliqué. Et puis, je lui dis, comment on fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Et je lui ai posé la question 4 fois ou 3 fois. En fait, elle ne m'a jamais répondu. Elle m'a dit, vous inquiétez pas. À chaque fois, elle répétait, vous inquiétez pas. Donc, ce qui est extrêmement inquiétant quand on te dit à ce point-là, surtout, tu t'inquiètes pas. Hein. Et c'est aussi en plus frustrant parce qu'elle a fini par me dire cette phrase que beaucoup de femmes qui vivent des fausses couches entendent, qui est « ça va être des grosses règles ». C'est pas des grosses règles, c'est pas vrai. Il faut vraiment qu'on arrête de dire ça. Mais du coup, moi, je me dis « mais en fait, des grosses règles, ça veut dire quoi ?» Moi, j'ai de l'endométriose, donc je sais ce que ça veut dire avoir des règles hémorragiques pendant 7 jours. C'est ça, c'est exactement ça. Et puis surtout, qu'est-ce qui va sortir de moi ?
Et elle prononce le mot « fausse couche » à un moment ou pas ?
Oui, Elle prononce le mot « fausse couche ». Et elle me dit, parce qu'elle voit mon émotion, elle me dit « vous avez un enfant déjà ?» Et donc, on lui dit qu'on a déjà un petit garçon. Et elle me dit « ah, c'est bon, ça va, il y en a qui n'ont pas d'enfant. » Et du coup, je comprends son intention en me disant ça. Mais en fait, c'est hyper maladroit parce que moi l'émotion que je ressens et la douleur que je ressens en ce moment-là, elle me dit « remballe parce qu'il y a pire que toi, hein. Ça va, te plains pas. » Elle ne répond pas non plus à mes questions. Et en fait, on sort du rendez-vous sans rien. Je n'ai pas d'arrêt de travail. Elle ne me demande pas d'aller voir une sage-femme. Elle ne me demande pas d'aller aux urgences. Elle ne me demande pas d'aller consulter mon médecin généraliste, ni d'aller à la médecine du travail. Le lendemain, en fait, on est lundi soir. Le lendemain, je suis au travail. Et je suis en train de vivre une fausse couche. Cette soignante, vraiment, c'est certainement la seule violence que j'ai pu subir pendant tout mon parcours. Et c'est vraiment du pipi de chat par rapport à d'autres. Mais c'est pas possible, en fait, qu'on laisse... Et je pense que je suis loin d'être la seule qu'on laisse une femme qui est en train de vivre ça sans rien. C'est moi, en fait, après, qui à un moment sort de mon hébétement et à me dire « mais je vais appeler une sage-femme quand même. » Parce qu'on rentre chez nous, mais moi, j'ai pas de saignement. J'ai des nausées, j'ai mal au sein. J'ai envie de vomir encore. Et puis, tu vois, elle me dit... En fait, elle me dit « c'est en cours ». Donc, je me disais, qu'est-ce qu'elle a vu sur son écran? Et puis, là, si je vais aux toilettes, qu'est-ce qui se passe? J'avais très, très peur de ça.
Oui.
J'avais très, très peur. Je ne savais pas, en fait, à quel stade j'étais. Est-ce que j'allais voir un bébé sortir? Ou un lézard, quoi. Un embryon. Et du coup, ça a été hyper violent pour moi.
Toi, tu intègres le mot « fausse couche » à ce moment-là? Est-ce que tu te dis, ça arrive assez fréquemment où tu es complètement sous le choc en te disant « mais là, ça m'arrive à moi, en fait ».
Clairement, il y a « pourquoi moi ?» quoi.
Ouais.
Il y a cette question-là. Je pense que ça faisait quelques jours que je me disais « bon, cette grossesse, elle va pas aller plus loin ». Donc, le mot « fausse couche », il était dans ma tête, il tournait en boucle depuis quelques jours. Après, je pense que ce qui rend concret aussi le truc, c'est de l'annoncer. Parce qu'en fait, moi, du coup, très vite, j'ai eu besoin de l'annoncer parce qu'en fait, tout ça me semblait absolument manquer de sens. Je ne comprenais pas pourquoi ça m'arrivait, pourquoi cette grossesse-là, elle s'arrêtait alors que l'autre, elle s'était poursuivie. Et puis, je m'étais vachement impliquée dans cette grossesse. C'est-à-dire que l'enfant que j'imaginais, je lui avais déjà donné un nom. J'étais sûre que ce serait une fille, qu'elle allait s'appeler Charlie, qu'elle allait faire ci, qu'elle allait faire ça, qu'elle allait s'habiller comme ci, comme ça. Elle existait, en fait, dans mon esprit. Donc, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Et je l'ai annoncé... moi, je suis très message. Donc, je l'ai annoncé par message écrit à mes parents d'abord, à certains amis qui savaient qu'on avait ces examens-là, dont on était très proches. Et puis, dans les groupes... des groupes communs qu'on a dans ma famille, qu'on a dans la famille de mon mec aussi, dans nos amis. en leur disant, voilà ce qui se passe, la grossesse est arrêtée, on est très triste, voilà comment vous pouvez réagir. Parce qu'en fait, ma grande crainte, j'avais besoin qu'ils sachent, ce qu'on était en train de vivre et ce que moi j'étais en train de vivre, mais je voulais surtout pas qu'ils m'appellent, qu'ils viennent me voir, qu'ils me prennent dans leurs bras et tout, parce que vraiment, je suis très très pudique et du coup, ça me stresse beaucoup ces manifestations-là d'émotions. Et du coup, je leur ai vraiment donné le mode d'emploi de... Vous pouvez nous envoyer un message. Si vous souhaitez nous appeler, il va falloir attendre. Ou alors vous appelez Harold. Dans ces cas-là, généralement, Harold devient un peu ma secrétaire. Mon secrétaire, du coup. Et il prend en charge les appels. Oui, non, là, elle a pas très envie de parler. Là, si. C'était ça, en tout cas, pour la naissance de Jules, quand c'était vraiment très, très dur après la naissance. C'est lui qui gérait tout le monde au téléphone. Et du coup, le lendemain matin, mardi matin, j'étais dans le RER et je retournais au travail. Et j'ai passé la journée au travail à gérer. J'étais journaliste au HuffPost à l'époque. J'étais chef de rubrique. Donc, gérer ma rubrique, les articles, la publication, le partage sur les réseaux sociaux. Alors, de quoi on parle aujourd'hui? J'avais fait le choix de prévenir mes chefs, donc le rédacteur en chef, la directrice de la rédaction, en leur disant, voilà, c'était des gens avec qui je travaillais depuis déjà pas mal d'années. Donc, j'en avais envoyé un message aussi hier, la veille, juste après avoir su. En leur disant, voilà, je veux pas en parler. Je veux pas que vous changiez quoi que ce soit par rapport à votre attitude envers moi. Et pour l'instant, je sais pas encore comment, mais je vais en parler à l'équipe. Mais pour l'instant, non. Et voilà, j'avais juste besoin que le monde sache, le monde autour de moi, mon monde. Voilà, elle est en train de vivre ça. Quand elle nous donnera le top départ, on fera peut-être quelque chose. Mais pour l'instant, on est un peu juste, on attend.
Mais
en contrôle. Et puis, c'est le surlendemain. J'ai appelé mes grands-parents. Pour en parler avec eux, je pensais, mes grands-parents au WhatsApp, ils sont très connectés, et je pensais qu'ils avaient lu le message où j'annonçais, et en fait, ils n'avaient pas lu le message.
Ah.
Et donc, ma grand-mère décroche, me met à pleurer et tout, et puis en fait, elle pense que j'ai peur de mourir une fausse couche. Il y a ce quiproquo qui s'installe, et elle me dit, elle a une voix hyper chantante, elle est pieds noirs, donc elle a un fort accent, elle me dit, mais ma fille, mais t'inquiète pas, mais tout va bien se passer. En fait, moi, j'entends qu'elle me dit, avec l'information que je suis en train de vivre une fausse couche, elle me dit que tout va bien se passer, donc ça me rassure vachement. Et puis, elle n'est pas du tout, elle est pas dans l'émotion, elle n'est pas en train de pleurer. Moi, j'avais très peur de faire de la peine à mes proches. Je culpabilisais aussi de me dire que mes grands-parents, qui étaient si contents de me savoir à nouveau enceinte, je les privais un peu de ça. Et en fait, bon, elle s'est sentie hyper mal après la conversation parce qu'elle a eu ma mère quelques temps après en me disant, oh, ça m'a pleuré au téléphone. Et ma mère me dit, non, mais en fait, la grossesse s'est arrêtée.
Ouais.
Ma grand-mère était dit, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai dit? Et en fait, ça m'a fait trop du bien qu'elle me dise ça, en fait. Et je me souviens que j'ai pleuré, je suis rentrée dans le métro juste après l'avoir eu pour aller au travail. J'ai pleuré, mais alors vraiment, j'ai ouvert les vannes. Gros sanglot, comme tu pleures quand t'es toute seule chez toi, quoi. Je sais même plus s'il y a des gens en face de moi dans le métro. Enfin. Et puis j'arrive, je sors du métro, et là, je me dis, j'appelle la sage-femme. C'est pas possible. Je peux pas rester comme ça. C'est pas normal. Je sais même pas ce qui se passe. Et bon, ma mère m'avait en plus travaillé un peu au corps depuis 2 jours en me disant, qu'est-ce que tu fous au travail, en fait?
Tu
arrêtes tout de suite. Tu rentres chez toi. En plus, j'étais loin de chez moi. Enfin, vraiment, c'était n'importe quoi. Et la sage-femme, là, elle m'a dit, non, mais vous allez aux urgences, Madame Lorenzo. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? On ne vous laisse pas sortir comme ça avec une grossesse arrêtée. Vous allez aux urgences, ils vont prendre soin de vous. Je vais vous expliquer ce qu'ils vont faire. Ils vont faire une prise de sang, ils vont faire ci, ils vont faire ça. Hein. Mais vous ne devez pas être au travail. Ça ne peut pas se passer sur votre lieu de travail. Ce n'est pas possible. Vous ne montez pas dans l'open space, vous prenez vos affaires, vous partez. Et je me souviens que là, mais j'ai eu un soulagement intense parce que enfin, j'avais l'impression qu'on s'occupait de moi.
Mais oui.
On me disait, voilà ce qui va se passer. Et vous inquiétez pas, on va vous tenir la main, ça va aller. Alors, je suis pas allée tout de suite aux urgences parce que j'avais l'impression qu'il fallait quand même que j'aille au travail, que je fasse, je sais pas, j'avais peur aussi, je pense, parce que aller aux urgences, ça voulait dire aussi terminer complètement cette grossesse.
Ouais.
Et puis après quelques heures, j'ai laissé un message à mon équipe qui était quand même, on était sur la même table, donc ils étaient en face de moi, mais j'ai écrit un message, puis je suis partie en leur expliquant, y compris à des stagiaires qui n'étaient pas là très très longtemps. Après coup, je me suis dit, mon Dieu, mais peut-être ça a mis tout le monde mal à l'aise que je partage comme ça. Mais en fait,
Tu avais besoin, en fait, que les
j'avais
gens
besoin que ça existe, ouais. J'avais besoin que ça existe, j'avais besoin que les gens sachent qu'en fait, j'avais été enceinte et que cette grossesse, elle a existé. Et puis, aux urgences, bah là, j'ai été super bien pris en charge, accueillie. On m'a tout expliqué 1000 fois. On a répondu à toutes mes questions. Et franchement, c'est le même hôpital dans lequel j'ai accouché de Jules et d'Andrea. C'est le même hôpital dans lequel j'ai été traitée pour les nausées pour la grossesse de Jules. Et vraiment, hôpital public, avec dans les situations qu'on connaît de l'hôpital aujourd'hui, vraiment, moi, j'ai été entourée humainement par des gens tellement bienveillants, tellement compétents. Du coup, en fait, le moment où je consulte, moi, je fais ce qu'on peut appeler un peu une fausse couche silencieuse, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien, je n'ai pas de saignement, j'ai pas mal au ventre, j'ai des nausées. Il faut vraiment qu'on s'assure que la grossesse est clairement arrêtée. Et ça, il faut que, du coup, l'hôpital refasse ses propres examens. Donc, rebelote, échographie, prise de sang pour mesurer les hormones de grossesse. Et puis, je devais retourner 2 jours après pour à nouveau vérifier qu'il y avait eu que les hormones de grossesse baissaient bien et que dans mon utérus, le contenu de la grossesse n'évoluait plus, quoi. Et donc, là, ils m'ont arrêtée. Et puis, quand j'y suis retournée, du coup, je suis retournée avec Harold, il me semble. Donc, c'était confirmé que c'était bien arrêté. Et là, ils nous ont expliqué. Donc, c'est une interne qui nous a reçus, qui nous a vraiment expliqué tout ce qu'on pouvait choisir. Une aspiration, un médicament à prendre ou d'attendre chez nous l'expulsion. Voilà. Vraiment, j'estime qu'on a eu toutes les réponses à nos questions et surtout une prise en charge très, très humaine. Pourtant, voilà, un hôpital public, encore une fois, vraiment, c'est important parce que je trouve qu'on le dit pas assez aussi que parfois ça se passe bien. Et du coup, bah, moi, j'étais très soulagée de savoir que je pouvais avoir droit à une aspiration. Donc, avant, on parlait de curetage, maintenant, on parle d'aspiration. Et c'est ce que j'ai choisi. Et il y avait un autre choix à faire, c'était l'anesthésie, puisqu'il faut aller au bloc opératoire. Et soit anesthésie locale, soit anesthésie générale. Donc, on a un rendez-vous comme avant un accouchement avec un anesthésiste qui va vérifier. Ça peut être une rachianesthésie si c'est local. Et donc, moi, je m'étais dit, bon, là, je vais dire au revoir aussi un peu à cette grossesse et puis à l'image du bébé que j'avais en tête. Donc, il faut que je sois consciente, il faut que je sois avec elle un peu. Et donc, je lui avais dit à l'anesthésie, je lui avais dit, bon, local. Ce sera local, je veux rester consciente. C'est une opération qui est très, très rapide. Je pars un quart d'heure ou quelque chose comme ça. C'est la même chose que pour une IVG. C'est exactement le même geste. Et en fait, je me souviens qu'il y a eu... Avant qu'il me trouve une place, il y a dû se passer 2-3 jours pendant lesquels j'étais bien. C'était triste, évidemment, mais je savais déjà comment ça allait se finir. J'étais pas toute seule. Je savais que je n'allais pas forcément, j'allais pas trop souffrir, que j'avais encore un peu de temps avec cette grossesse qui était encore en moi. Alors bien sûr, j'étais enceinte, mais je portais la mort. Enfin, c'est très ambivalent, hein, la grossesse, la fausse couche est un peu d'entre-deux tout le temps comme ça. C'est assez bizarre, mais je garde pas un souvenir complètement. J'étais pas au fond de mon lit pendant ces journées-là à pleurer mon bébé, quoi. Je me souviens que juste avant l'aspiration, la veille, j'avais passé ma journée sur mon vélo à acheter plein de victuailles pour faire un énorme repas, plein de charcuterie, plein de trucs. J'ai acheté plein de trucs pour Jules aussi, alors que je faisais vachement attention à ce que j'achetais et tout. Là, j'ai ouvert les vannes, tout ce que je voyais, je l'ai acheté à un jouet pour Jules. Allez, hop, c'est bon, on y va. Et puis, l'aspiration donc, a eu lieu. J'avais vraiment besoin d'y m'y rendre toute seule. Bon, de toute façon, ça aurait été compliqué que Harold... Enfin, on n'avait personne pour garder Jules, donc Harold restait avec Jules. Mais il y a une copine qui m'a proposé de venir avec moi. Je pense que j'aurais pu trouver des gens pour m'accompagner. Mais j'avais vraiment besoin de le faire seule. J'avais envie de... l'hôpital, c'était tout près de chez nous, donc j'y suis allée à pied le matin, à 7h du matin... Je traversais un parc et puis j'y suis allée. Enfin, voilà, je sentais que toute seule, j'aurais plus de force que si j'avais été accompagnée ou j'aurais l'impression de pouvoir m'effondrer. Et puis du coup, ça a été très rapide. En fait, c'est en ambulatoire. Donc, on rentre le matin, on ressort en fin de matinée et puis on va se reposer à la maison. Je me souviens que ce qui a été un peu dur, c'est que en fait, on te donne un comprimé quand même pour ouvrir un peu le col, pour faciliter le passage de la machine qui vient aspirer. au moment où je prends ce médicament, c'était ça qui me faisait peur avec l'autre médicament qui permet de vivre la fausse couche à la maison, c'est que j'avais l'impression que c'était moi qui provoquais la fausse couche parce que j'avais fait le geste d'avaler un médicament.
Ouais.
Alors que l'aspiration, c'était quelqu'un qui... C'était pas moi vraiment qui terminait la grossesse. Encore une fois, c'est mon ressenti vraiment... Je pense qu'il y a des femmes qui le vivent totalement différemment de prendre ce cachet-là et de le vivre sereinement chez elles plutôt qu'à l'hôpital. Et du coup, le moment où je prends le médicament, je me mets vraiment à pleurer. C'est le moment où il y a le brancardier qui arrive pour m'amener au bloc, donc qui me met sur un fauteuil roulant. Et en fait, il me voit vraiment dans tous mes états et il me dit « Vous avez le choix, hein. » Enfin, vous pouvez, il ne me le dit pas méchamment, mais je sens qu'il a de l'empathie et qu'il me dit « Vous pouvez changer d'avis, quoi. » Parce qu'en fait, il pense que je viens pour une IVG.
Ouais, bah oui. Aïe, aïe, aïe.
Je lui dis, très mes sanglots, que non. Voilà. Et puis, bon, il est hyper mal à l'aise et tout. Vraiment. Il me dépose à la salle juste avant le bloc. Et puis, je vois qu'il y a plein, de magazines. Donc, j'essaie de prendre un magazine, mais je pleure sur le magazine. Enfin, ni fait ni à faire. Et puis surtout, j'ai hyper peur que je sens quelque chose tomber puisque j'ai pris ce médicament. En fait, en vrai, je l'ai pris il y a 3 minutes. Le col, il s'ouvre pas comme ça. Mais sur le moment, je sens que je raisonne plus trop. Et l'infirmière du bloc arrive pour vérifier mon identité. Et elle me voit pleurer. Elle me dit, alors, attendez, on peut prendre du temps. Vous pouvez changer d'avis.
Oh là là, mais mince, il y a ça les dossiers.
Non, enfin oui, j'aimerais bien pouvoir changer d'avis, mais on ne peut pas en fait, parce que je viens pour une fausse couche. Alors, elle est mortifiée, mais je pense que c'est la plupart des femmes, enfin je ne sais pas exactement quel est le pourcentage des femmes pour qui c'est une IVG, pour qui c'est une fausse couche, mais voilà, il y a les deux dossiers, donc bon, ce n'est pas grave. Et puis finalement, dans le bloc opératoire, là, il n'y a plus ce genre de questionnement, heureusement. C'est un moment très doux, étonnamment. Même si un bloc opératoire, c'est pas très très doux comme environnement, mais je découvre donc un médecin qui est là, l'infirmière qui reste beaucoup à côté de moi, qui me tient la main, qui me caresse le visage et tout, et moi du coup qui n'aime pas du tout ça. Généralement là, vu que c'est une personne que je connais pas vraiment, ça m'apaise plus qu'autre chose. Et puis ce médecin qui me dit bon alors l'anesthésie générale locale, il me pose encore pas mal de fois la question, parce que je pense qu'il sent que mon état émotionnel fait que c'est compliqué. Et je dis local. Et puis après, je ne sais plus. Et finalement, alors qu'il était en train de préparer l'anesthésie locale, enfin, je pense qu'il était en train de faire ça, je dis non, général. Et il se retourne vers moi et il me dit c'est bien. Je pense que c'est bien pour vous, c'est la bonne décision, parce que là, ça va être trop dur. Ça va être trop dur d'entendre les machines. Et puis, on doit faire des gestes chirurgicaux qui ne sont pas faciles. Donc, c'est mieux. C'est mieux là pour votre état émotionnel. Et il me tient la main. Il est hyper doux et tout. Et en fait c'est la personne qui s'est occupée. C'est un gynécologue obstétricien. En fait, ce n'est pas du tout l'anesthésiste qui s'est occupé de l'aspiration et que je vais retrouver après la naissance d'Andrea par hasard. Mais c'est quelqu'un d'incroyable qui a suivi certaines de mes voisines quand on habitait donc à côté de cet hôpital en région parisienne, l'hôpital Beaujon à Clichy. C'est le docteur Hagman. Et c'est quelqu'un de tellement doux, gentil, humain, drôle aussi. Enfin, vraiment un gynécologue obstétricien assez incroyable et qui m'a beaucoup marquée. Et ce jour-là, vraiment, le regard qu'il pose sur moi, son attitude, sa douceur, sa tranquillité, tout vraiment a beaucoup fait pour que ce moment-là, ce soit un moment apaisé, en tout cas. Peut-être pas apaisant, mais...
Et du coup, là, tu te réveilles quelques heures après ?
Je me réveille... L'anesthésie, elle est très, très, très brève puisque ça dure un quart d'heure. En fait, il faut une aspiration, puis après, il faut une échographie tout de suite dans le bloc quand on est endormi pour être sûr que vraiment, il ne reste plus rien parce que sinon, ça fait des hémorragies. Et je ne sais pas, peut-être 20 minutes, une demi-heure plus tard, je suis en salle de réveil. J'entends l'infirmière qui dit dans les salles de réveil, moi j'ai pas eu beaucoup d'anesthésie, mais toujours l'impression que les gens parlent hyper fort, t'as envie de leur dire laissez-moi dormir mon sang, c'est bon madame Lorenzo, oh là là. Et puis j'ouvre un œil, je comprends rien, elle me dit ça s'est hyper bien passé, tout va bien, vous êtes en salle de réveil. Et je me dis ah super, génial. En fait j'ai oublié, je pense, pourquoi j'étais venue. Puis après, je m'en souviens, en fait, bah, je suis plutôt, bon, c'est cool, ça s'est bien passé, je mets ça derrière moi. Enfin, vraiment, voilà, j'ai pas de pensée, j'ai perdu mon bébé, j'ai pas tout ça.
Même les jours qui suivent après.
Voilà, c'est au moment où le jour même, je rentre chez moi, tout va bien, et c'est le lendemain où je commence à mettre un peu par réflexe les mains sur mon ventre, et en fait, ben, y a plus rien dans mon ventre. J'essaie de pas penser au bébé, je pense. Je fais tout pour pas y penser. Je pense beaucoup plutôt à la grossesse, mais je me demande pas, tu vois, par exemple, ce qu'il est advenu du contenu de mon utérus, où est-ce qu'il est, est-ce qu'il est à la poubelle, est-ce que. Et en fait, je me retrouve seule aussi à ce moment-là, parce que mon mec a repris le travail. Il n'y a pas de congé fausse couche en France, pour le coparent ni pour le parent d'ailleurs. Mon fils est chez la nounou, et puis moi, je suis à la maison, je saigne beaucoup, comme après un accouchement. Puis j'ai plus rien dans le ventre, en fait. Encore une fois, j'ai du mal à comprendre. Je comprends pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé? Hier, j'étais enceinte et aujourd'hui, je suis plus enceinte, mais j'ai pas de bébé.
Et tu as pu discuter avec d'autres femmes qui avaient vécu une fausse couche?
En fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, bon, là, je sens que je peux m'enfoncer dans un gouffre où je me dis que rien ne va dans ma vie. J'écris sur Instagram, je me dis, je vais écrire une fois par jour un texte sur la grossesse, sur la fausse couche. Encore une fois, le besoin de faire que cette grossesse, elle existe. Et que le monde entier, voire l'univers, sache que j'ai vécu une fausse couche. J'ai besoin qu'on sache. C'est certainement très égocentrique comme façon de faire, mais j'avais ce besoin-là. Et en fait, au moment où je prends la parole sur Instagram notamment, là j'ai des femmes qui m'envoient des messages que je connais ou que je connais pas, et qui me disent moi aussi j'ai vécu ça, j'en suis là aujourd'hui et tout. Et c'est à partir de ce moment-là, enfin, que je me dis ok, je suis pas seule. Parce qu'avant ça, dans mon entourage, il y a une voisine qui a vécu une fausse couche, qui m'en a parlé très vite et très simplement, c'était avant qu'on se connaisse. Mais à part elle, il n'y a pas de fausse couche dans mon entourage. Ça n'existe pas. En fait, ce que je ne sais pas, c'est que ma mère aussi a vécu une fausse couche, qui a été dans un stade extrêmement précoce, je ne sais pas, genre une ou deux semaines de grossesse, quoi, vraiment. Et qui, en fait, il y a plein d'autres femmes dans mon entourage qui l'ont vécu.
Elle se manifeste à ce moment-là, elle te raconte ça à ce moment-là.
Ouais, alors ma mère peut-être un petit peu avant, mais une fois que j'ai pris la parole, ouais, à ce moment-là, ça pop, quoi. Tout autour de moi, pop, 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 pop. Tu n'es pas seule. Et ça, c'est le plus important, en fait. Pour moi, c'est de savoir que je ne suis pas seule. Parce que j'ai commencé à lire des témoignages sur les forums. J'ai cherché des livres aussi de témoignages. J'avais vraiment besoin de me dire... Moi, je vis ça, comment elles ont vécu ça aussi? Est-ce que moi aussi, c'est normal que je ressente ci, que je ressente ça, que je sache pas si je veux tout de suite un bébé, ou peut-être j'en veux un tout de suite, mais est-ce que ça va remplacer le bébé? Enfin, on en parle tellement peu que ça ouvre un océan de questionnements sur lequel il n'y a pas de réponse, parce qu'il n'y a pas de discours dessus, quoi.
Et alors, au bout de combien de temps tu as décidé de faire, de vivre une troisième grossesse?
C'est arrivé... Un mois après l'aspiration.
D'accord.
C'est arrivé très vite. En fait, mon mec, assez rapidement, a voulu qu'on reprenne une vie sexuelle. Et moi, vraiment, c'était très, très dur au début de me dire... en fait, cet endroit-là, il y a eu une aspiration, il y a eu un geste chirurgical. Et la dernière fois, on a perdu un bébé, quoi. Et en même temps, ça m'embêtait parce que je sentais que... Bah déjà, si je voulais un autre enfant, il fallait quand même passer par là. Et puis, que je perdais la connexion avec mon corps.
Ouais.
Il m'en voulait, il m'avait trahi. En tout cas, c'est comme ça que je le ressentais sur le moment. Et donc, j'ai repensé à un truc que j'avais lu il y a longtemps d'une femme américaine qui disait qu'elle avait décidé, parce qu'elle n'avait plus de libido, un jour, de faire l'amour tous les jours avec son mec. Libido ou pas libido, voilà. C'était genre son exercice. Et c'était pas un truc imposé par son mec, c'était vraiment elle qui avait décidé.
D'accord.
Et je me suis dit, libido, pas libido, tu vas faire l'amour tous les jours. Et tu vas essayer de retrouver de la jouissance et une connexion avec ton corps de manière scolaire, non spontanée. Mais bon, voilà, moi, c'est quelque chose qui me parlait et qui est bien en accord avec la façon dont je vis les choses. je suis un petit peu, j'aime bien contrôler les trucs et tout. Donc là, je me disais, voilà, bah, t'as un objectif tous les jours. Paf. Mon mec était OK.
Ah bon?
Il n'a pas rechigné. Et au fur et à mesure, bah, les premiers rapports, c'était pas top. Et puis au fur et à mesure, c'est revenu, l'envie, le plaisir. Et puis, bah, je suis assez rapidement retombée enceinte. Même si bah, je ne savais pas si c'était bien, si c'était trop tôt. Là-dessus, il y a plein de discours aussi. J'ai l'impression que les soignants, ils ne savent pas complètement. Alors qu'en fait, les recommandations sont assez claires quand tu regardes les textes officiels. C'est qu'on peut retourner enceinte à partir du moment où on est prête, psychologiquement. Qu'on le décide, en tout cas. Pas qu'on ait un effet psychologique pour vouloir retourner enceinte. Mais si on a envie de retourner enceinte 3 jours et réessayer 3 jours après une aspiration... On peut. Bon, après, avec les saignements et tout ça, je ne pense pas que ça marche tout de suite. Mais il n'y a pas de règle. Il ne faut pas attendre 3 mois, 6 mois, sauf si on a un problème médical. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de contre-indication. Et du coup, bah, cette troisième grossesse du coup, a commencé à la fin du premier confinement. Donc, c'est un bébé confinement, comme il y en a beaucoup. Et voilà.
Et tu as été... stressée pendant cette grossesse ou au moins au début, j'imagine que ça marche.
Non, je pense que j'ai été stressée toute la grossesse. J'ai mis un petit peu plus de temps à l'annoncer autour de nous, mais c'était quand même avant les 3 mois. Mais à chaque fois qu'il y avait une échographie, juste moi, ce que je voulais, c'était entendre le cœur battre. Comme je ne l'avais jamais entendu battre pour la deuxième grossesse, là, la première écho de datation, parce que du coup, j'ai attendu et attendu et attendu avant de la faire, direct, je crois que c'était une sage-femme, direct la sage-femme m'a dit vous voulez entendre le cœur et direct il y a eu le cœur et si j'avais pu faire des échographies tous les jours j'en aurais fait juste pour entendre le cœur. Après le reste, je sais pas, je me concentrais pas trop dessus, il aurait pu se passer en fait 1000 choses parce que quand on sait le miracle que c'est déjà 1 pour tomber enceinte et 2 pour qu'il y ait un enfant en bonne santé à la fin qui y arrive. Il y avait plein d'autres motifs d'inquiétude, mais moi, c'était le battement du cœur.
Et alors, tu as été malade aussi pendant cette grossesse ?
J'ai été malade pendant 4 mois, avec un peu moins d'intensité que pour Jules, parce que j'avais trouvé en fait, très rapidement, la sage-femme m'a dit, mais vous pouvez prendre ce médicament qui est un antihistaminique qui marche sur certaines femmes, plus ou moins, vous verrez. Et c'était le médicament où on m'avait dit pour ma première grossesse, vous avez tué votre bébé.
Ouais, incroyable ça aussi.
Bon, et en fait, ça m'a quand même pas mal soulagée. Ça m'a permis de travailler plus sereinement, d'avoir un peu une vie à côté. Et puis, j'ai été pas mal arrêtée. Et puis, il y a eu les confinements aussi. Ça a aussi aidé quand même. Il y a eu beaucoup de télétravail. Les femmes, il n'y avait pas de vaccin à ce moment-là, donc on protégeait pas mal les femmes enceintes, donc c'était pas plus mal.
Et la rencontre, comment elle s'est passée ?
Alors, la rencontre, accouchement express de chez Express, c'est-à-dire que ça a duré 1 heure, le travail.
Oui.
Je suis passée de 2 à 10 en 1 heure, en dilatation, et là, la reconnaissance. C'est-à-dire que je me souviens que la sage-femme me dit à nouveau « Sortez-le, sortez-le !» Donc là, je dis « Ouais !» Et je le sors et je dis « C'est mon bébé !» quoi. C'est mon bébé. C'est Andrea, c'est mon bébé. Et je pense que il y a eu cette reconnaissance-là, pas parce que c'était un bébé différent de Jules, mais parce qu'il y a eu Jules avant et que j'ai pris confiance en moi et en mes capacités de mère. Je peux m'occuper d'un nourrisson. Et que là, j'étais pleinement consciente de ce moment de la naissance et de me dire, mon bébé arrive, c'est mon bébé, je l'accueille. Et voilà, ça a été un accouchement. Les 2 accouchements que j'ai vécus, franchement, ont été très beaux, les 2. Et celui-ci, du coup, la rencontre a aussi été pleine de d'émotions et de magie, quoi. Il y a beaucoup moins d'ambivalence que pour Jules. Après, ça n'a pas été non plus facile. Mais déjà là, le moment où voilà, je sors, je le vois encore tout frétillant comme une petite grenouille, là, comme ils sont en sortant. Je me souviens avoir dit « c'est mon bébé ». Alors, mon mec, je crois, a pris une vidéo de ce moment-là, de la rencontre, pas de l'accouchement vraiment. J'ai toujours pas osé le regarder, là, 16 mois après l'accouchement, parce que je sens que c'est trop émotionnel pour moi. Mais,
Et tu penses que c'est aussi le fait d'avoir vécu cette fausse couche où là,
Ouais, peut-être, peut-être. Après, vraiment, j'ai vraiment fait attention à ce que Andrea ce soit pas un bébé médicament ou qui vienne remplacer ce bébé-là qu'on a perdu. C'est vraiment dans ma tête bien deux choses très différentes, deux grossesses très différentes. Et j'ai vécu le terme de la deuxième grossesse pendant la grossesse d'Andrea. J'ai accouché d'Andrea en janvier et en septembre de l'année d'avant, donc c'était la date de terme prévue. Et ça a été émotionnellement un moment assez difficile, sans trop comprendre. J'avais pas vu dans le calendrier en fait, mais j'étais très triste pendant quelques jours, des crises de larmes que je comprenais pas et tout. Donc je pense que j'avais aussi quand même un peu fait le travail un peu de deuil de tout ça. Et puis je continuais ma thérapie aussi avec ma psy, qui m'a pas mal aidée à lâcher la tristesse de la fausse couche. Ça, c'était assez dur une fois que l'aspiration avait eu lieu, qu'il s'était passé quelques semaines, de me dire, en fait, je peux arrêter d'être triste aussi à un moment. Je peux décider que là, j'ai dit au revoir à cette grossesse, que Charlie, elle n'existera pas. Elle a existé, elle a existé dans mon esprit, mais qu'elle n'existera pas et que là, je peux passer à autre chose. Ça, c'était très dur pour moi de faire ça. Ouais. Et elle m'avait dit, c'est possible de faire un petit rituel, par exemple, si ça vous parle. Alors, moi, ça ne me parlait pas trop, ce côté ésotérique. Je ne suis pas très à l'aise avec tout ça. Et puis finalement, un jour, ça s'est un peu imposé. Pendant le premier confinement, on a des amis qui nous ont annoncé qu'ils attendaient des jumeaux. C'était leur deuxième enfant. On avait été enceintes. Nos premières grossesses, on les avait passées en même temps avec ma copine. Donc, ça faisait quand même pas mal écho à la fausse couche, tout ça. Et ils étaient d'ailleurs... C'était un moment assez émouvant de nous l'annoncer. Ils ont aussi parlé de la fausse couche et tout. Et en fait, après cet appel-là, j'ai senti qu'il fallait que je le fasse, que je fasse un petit rituel, en effet, pour dire au revoir à cette grossesse. Que là, c'était... entre guillemets, fini, même si ça continue de m'habiter aujourd'hui encore, hein, mais voilà, qu'il fallait que je pouvais passer à autre chose, que j'étais prête à passer à autre chose. Et j'ai fait un truc tout simple, j'ai juste écrit une petite lettre, et puis je suis allée sur mon balcon et je l'ai brûlée la nuit. Je ne sais même plus ce qu'il y a écrit sur la lettre. Je ne sais plus du tout, je n'ai pas relu.
Ouais.
Ça, c'est un truc que ma psy m'a beaucoup transmis et qui fait beaucoup de bien, je trouve, c'est qu'elle, souvent, elle demande d'écrire des lettres à telle ou telle personne, à telle ou telle chose, et surtout de ne jamais les relire et de les détruire tout de suite, ce qui permet vraiment de sortir tout sans qu'il y ait un contrôle vraiment conscient. Et ça m'a fait vachement de bien. J'ai gardé un tout petit morceau du papier, parce qu'au moment où je le tenais, donc il me restait un tout petit morceau, que j'ai pas jeté, que j'ai gardé, qui est dans mon portefeuille, que je vois tous les jours quand j'ouvre mon portefeuille, mais parfois j'y pense, parfois j'y pense pas. Peut-être qu'un jour je le perdrai en sortant une carte parce qu'il est dans mon porte-carte. Ce sera pas très grave. Mais pour l'instant, il est là. Je le mets pas à la poubelle non plus, quoi.
Après, t'as fait plus qu'écrire une lettre puisque tu as sorti un livre sur la fausse couche qui s'appelle « Une fausse couche comme les autres ». Et comment est né ce projet? À quel moment t'en avais besoin aussi de...
Ouais, en fait, ce livre, ça faisait longtemps, je pense, que j'avais envie d'écrire un livre. Quand j'ai commencé à écrire après l'aspiration sur Instagram, que j'ai vu que ça évoquait des choses pour d'autres femmes que moi, d'autres couples, je me suis dit, peut-être que c'est ça le livre que je dois écrire. Peut-être que ça me fera du bien. Je sentais que j'avais tout en moi pour l'écrire, que c'était encore très, très vivace. Et encore une fois, il y avait certainement ce besoin de faire exister cette grossesse et puis de lui donner du sens. Là, aujourd'hui, il y a un livre, elle existe. Et en plus, c'est un livre qui a pu aider certaines autres personnes qui sont passées par là. Donc, elle a servi à ça aussi. Et en fait, j'ai commencé à y réfléchir sérieusement pendant le congé maternité avant le deuxième accouchement. Et puis, j'ai signé le contrat d'édition, donc je ne l'avais pas encore écrit, le jour de la reprise du boulot après mon deuxième accouchement. Donc, quand Andrea avait 4 mois.
Et ce qui était important pour toi, c'était que d'autres femmes qui vivraient la même chose retrouvent toutes les informations que toi, tu n'as pas eues par exemple?
En fait, je voulais vraiment répondre à la moi du soir où j'apprends que la grossesse est arrêtée et où la soignante ne répond pas à mes questions et où je me retrouve au milieu de la nuit sous la couette à regarder sur mon téléphone livre, fausse couche, témoignage, fausse couche, je sais que j'ai tapé ça sur Google, tirer la chasse d'eau, fausse couche, qu'est-ce que je vais voir dans la chasse d'eau, puis j'avais peur de voir des photos, enfin voilà, c'est à cette personne-là que je m'adresse. Et en fait, ce livre, il fait sa petite vie. Et puis, il est aussi tombé dans les mains de gens qui n'ont pas vécu de fausse couche, qui ne veulent pas forcément d'enfants, mais qui étaient intéressés par... voilà. C'est quoi, en fait, aujourd'hui, de vivre une fausse couche en France? Et puis, ce titre, il me tenait beaucoup à cœur parce que ma fausse couche, elle n'a rien d'extraordinaire. Elle s'est, entre guillemets, plutôt bien passée, dans le sens où il y a quand même des histoires encore plus douloureuses physiquement et psychologiquement que la mienne quand on parle de fausse couche. Au moins, je fais un peu exister ce discours qu'on n'entend pas et qui fait que la fausse couche reste quelque chose à la fois que tout le monde connaît. J'ai jamais rencontré une personne qui me dise c'est une fausse quoi ? Ça veut dire quoi, fausse couche ? C'est incroyable. Même les hommes, alors que bon, tu dis endométriose, encore aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui ne savent pas ce que ça veut dire. Fausse couche, tout le monde sait ce que ça veut dire, mais alors par contre, quand tu rentres un peu dans les détails, bah non. Alors que ça touche une grossesse sur 4, une femme sur 10. Donc on a forcément dans notre entourage une mère, une sœur, une collègue, une voisine, une amie qui en a vécu une, qui va en vivre une. Il faut absolument qu'on sache. Et puis il y a des gens qui m'ont un peu dit « ça va faire peur, arrêtez de parler de ça, ça va faire peur aux futures mamans, aux jeunes mamans ». En fait, je ne pense pas que ça fasse peur. Alors oui, peut-être que si une personne m'annonce demain qu'elle est enceinte, je ne vais pas lui offrir mon livre, bien sûr. Mais en fait, moins on sait, plus on a peur. Et puis surtout, le fait de ne pas en parler, ça ne fait pas qu'il y en ait moins.
Bien sûr.
Ça ne marche pas. De toute façon, il y a quand même une femme sur 10 qui va en vivre une. Donc si cette femme sur 10, elle sait qu'au moins, il y a un espace où on va lui donner des réponses, et que voilà, j'ai essayé de mettre des ressources aussi. Il y a des assos qui font un travail incroyable pour écouter les femmes et les couples qui passent par là. Les hommes aussi, il faut les entendre là-dessus. Il faut leur donner leur place. Il y a plein de choses à faire sur la fausse couche. Il faut absolument que tout cela change. Et c'est pour ça là qu'on a. Moi, je fais partie d'un collectif. On a lancé une pétition pour qu'il y ait vraiment une meilleure prise en charge globale de la fausse couche. À l'hôpital, enfin dans le milieu médical, dans le milieu professionnel, même à l'école. Quand on fait des cours de SVT sur la grossesse, il faut qu'on dise, juste au détour d'une phrase, une grossesse sur 4 s'arrête au premier trimestre. Et c'est OK. C'est très triste, mais c'est comme ça. Et ça, ça changerait tout déjà.
Oui. Ouais, alors toi, qu'est-ce que ça a changé pour toi, la maternité ?
J'ai réfléchi à cette question parce que je sais que tu la poses. La maternité, ça, je crois que ça m'a endurcie.
Ouais.
J'ai vraiment fait face à des peurs intimes et très profondes dont j'avais pas forcément conscience avant d'avoir des enfants. Mais la rencontre avec Jules, clairement, ça reste un moment très 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 angoissant et je suis hyper fière d'avoir réussi à surmonter ça. Andrea a été hospitalisée à un mois de vie pour une bronchiolite. Il a été en réanimation, sédaté pendant, endormi profondément. Enfin, un truc horrible. Clairement, c'était aussi, voilà, c'est mes deux plus grandes peurs de voir mon enfant souffrir comme ça, hurler dans une chambre d'hôpital à Necker en pleine nuit. Et de pas savoir si potentiellement on va peut-être est-ce qu'il va vraiment survivre ou pas. Et donc voilà, ça clairement ça m'a apporté ça, la maternité, ça m'a apporté énormément de joie, de je suis tellement heureuse de pouvoir chanter la Reine des Neiges tous les soirs quand je retrouve mon fils de 3 ans et demi qui couvre enfin libéré délivré, parce que moi je me suis jamais lassée de cette chanson. Donc ça m'a apporté énormément de joie et ça m'a aussi, je pense, beaucoup endurci. Ça m'a permis... en fait, je pense je l'avais déjà, cette force en moi, mais ça a été un révélateur. Et c'est aussi pour ça que la fausse couche, elle a été très importante. C'est que ça m'a... Au départ, je parlais d'un bouclier parce que c'était un moment difficile dans ma vie quand je suis tombée enceinte la deuxième fois. Mais en fait, ça m'a révélé à moi-même une réserve de force et de créativité auquel j'avais pas accès avant d'être mère, mais qui était déjà en moi. Et ça a été un super miroir, en fait, pour ça.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode. C'est quoi pour toi être une maman marseillaise ?
Une maman marseillaise, c'est aller à la plage après l'école.
Et quel est ton endroit kids-friendly préféré à Marseille ?
Alors, j'aime beaucoup le Badaboum Théâtre, mais j'y suis pas encore allée avec mon fils parce qu'il est un peu petit encore. Mais j'y suis déjà allée avec des enfants, c'était vraiment très chouette. Et sinon, la plage de la Pointe-Rouge.
Et quels sont tes projets rien que pour toi et ceux prévus en famille ?
Alors, les projets rien que pour moi... Bah là, j'ai fait un grand changement professionnel à la fin de l'année dernière. J'ai quitté le HuffPost où j'étais depuis pratiquement 10 ans. Donc là, mon projet rien que pour moi, je dirais que c'est de continuer à réinventer cette saison 2 un peu de ma vie professionnelle, qui est pour l'instant riche en tout un tas de projets, notamment autour du podcast. Donc, je te poserai des questions,
ah, oui.
des conseils. Voilà, et des projets en famille. Malgré 2 ans passés sans dormir, nous avons décidé non pas de nous reposer pour les vacances cet été, mais de partir à Berlin avec nos deux petits garçons et de courir la ville. Voilà, donc ça, c'est mon projet dont j'ai trop hâte, d'aller boire des bières dans les Beer Garden à Berlin avec nos enfants et puis d'apprécier cette vie dans le sud retrouvée puisqu'on a déménagé donc début de l'année 2022, fin 2021. Et on est encore en train de s'émerveiller d'être revenu dans notre sud.
Merci beaucoup Sandra.
Merci Shane.
Un grand merci d'avoir écouté Le Tourbillon et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un avis sur votre application podcast et à en parler autour de vous. Cela m'aidera beaucoup. Et pour que l'on puisse échanger ensemble sur tous ces sujets de maternité, abonnez-vous au compte Instagram Le Tourbillon Podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie.